C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Disons que la discussion autour de la table de négociation s'est transportée hier dans l'espace public quand le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit essentiellement les syndicats collaborent pas, les syndicats veulent qu'on donne des primes à des délégués qui travaillent pas sur le plancher et ne veulent pas reconnaître l'ancienneté des gens qui ont quitté le réseau. Puis on a vu la réponse syndicale un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il y a raison de se plaindre de l'absence de collaboration des syndicats? Nathalie.
Ben, c'est la réponse facile, si vous voulez mon avis. Il y a 50 nuances de gris dans ce dossier-là. On peut légitimement se demander qui a mis le feu aux poudres, qui explique la situation actuelle. Évidemment, les commentaires dans les médias sont nombreux. Le torchon brûle, le ministre a acheté les gants. Élément de contexte important, la FIC représente 76 000 membres dans le réseau de la santé. C'est les infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, perfusionnistes. Le 6 octobre dernier, la FIC signe la convention collective, sa convention collective avec le gouvernement. Jusqu'en 2023, c'est la fête au village, les gens sont très heureux. Le 16 octobre, 10 jours plus tard, le ministre de la Santé signe un arrêté ministériel dans lequel il confirme les modalités entourant le versement des primes pour permettre aux infirmières et infirmiers de revenir au travail. Le 21 octobre, le gouvernement adopte un guide pour clarifier son arrêté. Élément de contexte, l'arrêté fait 13 pages, le guide en question explicatif en fait 15, hein, quand même. Le 9 novembre, aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats qui viennent d'émettre un communiqué dans lequel, hier, en fait, ils ont fait ça, dans lequel ils déplorent la réaction, le mépris du ministre. Moi, honnêtement, j'ai regardé l'arrêté, j'ai regardé le document explicatif et clairement, on peut dire que le diable se cache dans les détails. Je comprends les syndicats qui disent aujourd'hui que le ministre, l'accès aux primes est beaucoup trop restrictive. En fait, la signature de la convention collective était faite sur un principe, celui d'assurer la stabilité des équipes dans les différents établissements de santé, alors que l'arrêté ministériel vient contredire ce principe sur lequel on s'est entendu. Alors, politiquement, le ministre a su appuyer sur le bon bouton. Lorsqu'on accuse les syndicats, généralement, ça rapporte sur le plan politique, mais là, honnêtement, je trouve que il y a de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi de part et d'autre parce que c'est pas vrai qu'on va donner l'absolution aux syndicats là, en disant là, on vous donne le bon Dieu sans confession là. Mais en même temps, je pense qu'il faut éviter de jeter le blâme, de tout le blâme sur les syndicats.
Nathalie, j'avoue que je comprends pas ta position. Je te pose une question. Quand tu dis que la convention cherche la stabilité dans l'embauche puis dans le maintien du personnel,
c'est le titre d'ailleurs,
ouais, d'accord, et que le guide d'accompagnement des primes contredit ça. Peux-tu être plus clair, s'il te plaît? Peux-tu me donner plus de détails?
Par exemple, on a dit dans la convention collective, on veut des cadres de travail stables. Lorsqu'on dit dans l'arrêté ministériel, c'est qu'on favorise ce qu'on appelle les cadres de rotation. Deuxièmement, ce qu'on dit également, je disais ça hier, un employé qui travaille sur un quart de soir, qui veut travailler, par exemple, sur un quart de nuit, ne pourrait pas toucher aux primes. Alors, je me dis, alors que le syndicat dit un instant, tout quart de travail effectué, par exemple, durant la fin de semaine, pourrait donner droit au montant forfaitaire sans disqualification possible. Ce qu'on apprend en lisant le guide également, c'est qu'avec tout un calcul un peu compliqué, je l'admets, tu vas peut-être être obligé, comme employé, Luc, de rembourser une partie de la prime que tu as reçue. Alors, moi, j'ai envie de dire, écoute, t'as droit aux primes ou t'as pas droit aux primes? Puis tu sais très bien, Luc, que le mammouth qui est le ministère de la Santé peut vraiment, malheureusement, souvent, compliquer les affaires. La situation aurait pu être très, très simple, mais elle est devenue compliquée.
Oui, mais attends. Ce que je comprends, moi, c'est que le prime, c'est un outil imparfait. Hein? C'est l'outil idéal, ce serait une embauche régulière d'employés à temps plein, permanente, en nombre suffisant pour qu'il n'y ait pas de temps supplémentaire obligatoire, puis en nombre suffisant pour qu'on remplisse tous les quarts de travail, soir, nuit, fin de semaine, et aussi dans les départements les plus difficiles à combler, donc obstétrique, urgence, bloc opératoire. Mais là, la prime, elle vient pas régler ça. Ça fait pas ça, la prime. La prime, elle vient mettre une patch. Elle dit, là où je manque de monde, je mets des conditions. Je mets 15 000 sur la table, puis je mets des conditions pour qu'il y ait du monde à ces endroits-là pendant un certain temps. C'est sûr que c'est imparfait. C'est sûr que c'est un outil imparfait.
Mais ce que le syndicat dit, Luc, c'est que il y a trop de restrictions parce que l'annonce comme telle des primes, c'est bien, tout le monde a, beaucoup de gens saluaient ça. Mais comme tu le sais très bien, le diable se cache dans les détails. Alors, c'est ce que les syndicats déplorent. Le syndicat, on dit, nous, on a proposé 15 solutions au ministre pour que ce soit moins restrictif et le ministre n'a pas répondu à ces solutions. La réponse, c'est pour ça que je dis que la réponse du ministre, la réponse facile, c'était de dire, c'est le syndicat qui collabore pas. Non. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça, là.
Mais c'est parce que les syndicats veulent avoir une hausse du salaire, que la prime soit transformée quasiment en hausse de salaire pour tout le monde, le moins de restrictions possible, et surtout, pas de restrictions si, par exemple, il y a les congés sans solde. Alors que le gouvernement dit, il y a trop d'absentéisme, j'ai besoin d'avoir une poignée pour empêcher l'absentéisme, ça va être la prime. Tu sais que les primes, tu sais qu'il y en a dans beaucoup de domaines, elles sont aussi difficiles à introduire qu'à retirer. Lorsque tu introduis une prime, ça fait beaucoup de problèmes, notamment d'équité entre les employés, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un outil imparfait. Puis lorsque tu tentes de la retirer, la prime, lorsque le problème a été réglé, le problème de recrutement et de rétention, les employés hurlent la mort. Il y a eu plusieurs manifestations syndicales en 2018-2019 parce qu'il y avait des retraites primes. Là, les syndicats disent non, enlevez-nous pas ça. C'est considéré dorénavant comme une partie du salaire. Mais ce n'est pas une partie du salaire. C'est un coût. C'est juste une shot ponctuelle. Et le coût ponctuel, il a fonctionné, là, dans le sens où il y a plein d'infirmières qui reviennent.
Mais je vais prendre un exemple bien concret, là, sur l'ancienneté. OK? Je comprends le principe.
C'est un gros point.
Tu sais, parce que moi, là, je travaille, mettons, là, j'ai fait, comme je donnais l'exemple tantôt à la présidente du syndicat, j'ai fait 20 ans dans le réseau, OK? Je suis parti parce que je n'étais plus capable. Je suis allé travailler ou à la retraite, là. Puis je reviens après 5 ans. Je recommence-tu vraiment en bas de l'échelle?
Regarde ça. Les syndicats veulent que tu recommences en bas de l'échelle. Ouais. Ça, c'est la demande des syndicats. Parce qu'ils se disent, celle qui est restée...
Oui, je suis d'accord.
Elle est restée, elle n'a pas le 15 000... Elle est restée, elle, la brave. Puis elle n'a pas le 15 000, l'autre à part... Elle revient bronzée, puis elle a 15 000 piastres de plus. Ben là, wow! Fait qu'évidemment, il n'y a pas de situation gagnante là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est un outil imparfait. C'est pas un outil qui marche.
Mais c'est pas un outil imparfait, mais c'est certainement un outil perfectible, Luc. Alors, parce que moi, je pense qu'on n'est pas si loin que ça de s'entendre. Mais là, le ministre, dans le fond, plutôt que de s'ériger en leader sur cette question-là, met un peu d'huile sur le feu pour effectivement, camper l'opinion publique. Puis on sait que l'opinion publique, généralement, n'est pas en faveur des syndicats. Tu sais, on s'entend là-dessus. Sauf que là, moi, je me dis, attends une minute, là, ce qu'il faut, c'est trouver effectivement une voie de passage pour s'assurer qu'il y a un nombre maximum d'infirmières auxiliaires, peu importe là, tous les corps de travail visés, qui reviennent dans le réseau et qui sont heureux de revenir dans le réseau. Là, Luc, on discute ce matin de modalité. En fait, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. C'est
oui,
ce que je dis.
Mais regarde. Eux autres, là, il y avait un énorme déficit. Quatrième vague a entraîné un report des opérations. Ils ont besoin des infirmières. Les blocs opératoires ne fonctionnent pas à temps plein à cause du manque d'infirmières. Ils arrivent avec une patch. C'est la roue de secours, là. C'est pas la roue avec laquelle tu vas faire la Formule 1, là. C'est la roue qui est dans le coffre en arrière, là. Tu sais, la petite, là, la pas bonne. Mais c'est ça, la prime. Regarde, mais c'est vrai que ça met du bordel. Mais c'est vrai aussi que tu en as besoin. Regarde les préposés aux bénéficiaires. Il paraît que l'ambiance est pourrie entre celles qui ont les nouvelles puis les anciennes, parce que les nouvelles ont signé une entente selon laquelle leur formation était payée, ils étaient payés durant la formation, puis là, ils doivent rester un an, et ils acceptent des conditions de travail, donc de faire des quarts de nuit, de fin de semaine, etc., avec aussi une prime à la... Quand tu viens tout le temps, là, quand tu rates pas, ça s'appelle comment déjà, quand tu...
La rétention. Ben,
Non, tu sais, quand tu n'as jamais raté une journée, là, on appelle ça de la...
Fidélité.
Stabilité.
Non, il y a un autre mot, mais ça va venir.
Okay.
Toujours est-il que quand t'as jamais d'absence, et donc, elles acceptent de
Assiduité.
M'excuse. Voilà. Donc, l'assiduité rentre dans la prime. Là, les anciennes disent, wow, c'est quoi ça? Ça change nos conditions de travail. Ben là, le gouvernement dit, ben, tu la veux, tu la prends, tu la veux pas, tu la prends pas. Et c'est pas parfait. Ça améliore pas la condition de tout le monde. Et ça, c'est d'ailleurs un autre problème. Ça n'améliore pas la condition de tout le monde. Tu travailles à côté de quelqu'un qui fait 15 000 $ cette année de plus que toi. C'est grave. Mais c'est une patch.
On s'arrête là-dessus. Au retour, le grand sommet COP26 est-il un échec? Est-ce qu'on peut déjà tirer une conclusion?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, la commissaire de l'ONU à l'environnement considère que la COP26, qui n'est pas encore tout à fait terminée, est un échec. Luc, est-ce qu'elle a raison?
Ben oui, la pauvre elle. Puis les pauvres nous aussi. Parce que... Et quand les Nations Unies disent que c'est un échec, peux-tu dire que c'est un échec là, lamentable? Parce que les Nations Unies, leur arme de travail, c'est la mobilisation par l'optimisme. tu sais, dans les, pour régler les famines, les guerres, etc. Ils font preuve de toujours de, oh oui, on peut, oui, on peut, oui, oh, il a rendu 80 000 morts, on peut. Mais quand il dit que ça marche pas, là, c'est parce que ça, vraiment, ça marche pas. Les chiffres sont importants. Les engagements qui ont été pris par les nations sont de 0,5 gigatonnes, alors qu'il fallait, excuse-moi, j'ai pas le chiffre devant, 27 gigatonnes. Il fallait 27, j'avais 30 en tête. 27 gigatonnes, puis ils ont ramassé 0,5. Fait qu'ils ont 4% de l'objectif. Et moi, prenons le cas du Québec, parce que ça va être plus le fun. Moi, j'étais enthousiaste au micro de Patrick Lagacé. Je dis waouh, Legault aussi fait de l'ouvrage là-bas, puis il revient, puis il avait dit qu'il coupait 5 millions de tonnes, faut atteindre à peu près entre 30 puis 35 millions de tonnes de réduction pour atteindre nos propres objectifs. Il revient, puis en un seul événement comme ça, il a couvert 5 millions de tonnes. Je reçois plein de courriels en fin de semaine des experts qui calculent les millions de tonnes puis de GES, de CO2. Puis ils me disent pas pantoute, c'est grossièrement exagéré, c'est même pas 10% de ça. Donc, on aurait atteint comme moins d'un million de tonnes sur les 32 ou 35 qu'il faut qu'on atteigne en 2030. Fait que, j'étais en bâton de fusil. Je me suis dit, Boswell. C'est moi qui, pour une fois que je les encourage, pour une fois, c'est que je dis qu'ils ont raison dans le domaine de l'environnement, tabourette, me fait avoir comme un enfant d'école. Mais là, c'est ça la patente. C'est du greenwashing. Elle a raison, la Greta Thunberg, notre leader à tous. Elle a raison de dire c'est un festival de greenwashing. Elle a appelé ça. Il y a eu aussi des engagements par l'Inde, le Brésil, la Russie qui s'avèrent aussi comme ceux du Québec, des miroirs aux alouettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'atteint pas les objectifs? Les gens, ouais, 1,5 degrés, 2 degrés, je sais pas. Hier, il annonçait 19, puis il fait 21. C'est pas si pire, 2 degrés, on va le prendre. Pas de même. 2 degrés, là, c'est l'enfer sur Terre.
Nathalie.
Oui, ben moi qui est de naturel plutôt optimiste, je dois vous dire que ce matin, je suis dans le même camp que mon ami Luc. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est l'ONU qui organise cet événement depuis des années. Et c'est l'ONU, c'est l'organisateur de l'événement qui dit rien ne va plus, on n'atteindra pas à ce rythme-là nos objectifs. Alors, on peut pas dire que c'est la fête au village. Et quand tu regardes ça un peu rétrospectivement, tu dis c'est le plus grand défi auquel l'humanité, à laquelle notre humanité, en fait l'humanité est confrontée. Depuis certainement peut-être l'Homo sapiens, je ne sais trop. Mais c'est vraiment très, très gros ce qui est devant nous. Et oui, c'est décourageant. C'est très décourageant parce que imaginez ce que ça coûte un événement comme celui-là. Uniquement en mobilisation, on tu déplaces 150 chefs d'État, puis finalement pour faire pouet-pouet à la fin d'exercice. Tout ça, c'est pas pour nous encourager, nous comme citoyens, à faire notre part et à continuer effectivement de lutter contre les changements climatiques. Mais en même temps, je me dis, ah, il faut pas se laisser décourager. Évidemment, la fatalité n'est pas une solution. Mais j'avoue qu'il faut devoir, ça va nous prendre, comment dire, de très bonnes nouvelles pour continuer de s'accrocher à ces efforts qu'on a à faire, effectivement, pour mieux protéger notre environnement. J'ai une donnée, là, publiée par l'actualité, là, Gérald Filion de Zone Économie avec François Delorme, ont publié un livre fort intéressant sur notre dépendance au pétrole. Mais vous dire à quel point c'est compliqué, la transition écologique. En 2050, là, on dit qu'ils estiment, ces deux auteurs, qu'on va dépendre encore de 27 % du pétrole. Le pétrole va être dans nos vies à hauteur encore de 27 %. Alors, tu sais, c'est beau la baguette magique. Là, Luc, tu dis qu'il faut prendre des moyens drastiques. Mais même avec des moyens drastiques, le pétrole, parce que c'est devenu un symbole fort dans cette lutte au changement climatique, va encore occuper une place importante dans nos vies. Et il y a des données qui nous frappent, qui frappent notre imaginaire. L'année dernière, 23 millions de déplacés à cause des changements climatiques, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Il y en aura 200 millions en 2050. C'est énorme. Si vous pensez que les migrations de population qu'on voit en Europe, là, c'est pour se résorber, oubliez ça. Là, ça va augmenter et on va la sentir, nous, cette pression en Amérique du Nord. On la sent. Les Américains la ressentent déjà à la frontière mexicaine, mais on va continuer de vivre avec des effets qui sont vraiment catastrophiques. Alors, je veux bien, mais en même temps, c'est sûr que tu dis, attends une minute, là, c'est difficile d'être encouragé et de dire comment on va s'en sortir, comment on va y arriver. C'est le défi.
On n'y arrivera pas, Nathalie, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on se prépare à ce qui va arriver. Donc, ça prend des communautés résilientes, des communautés qui qui dépensent moins de pétrole et d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, pour se rencontrer, pour continuer de vivre, pour manger aussi. Parce que dans les catastrophes que tu annonces, là, quand tu dis 200 millions de déplacés, ça, c'est l'échelle basse. Là, l'échelle haute, c'est 800 millions de déplacés pour 2 degrés. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs organismes parallèles au GIEC qui ont dit, ben, c'est pas à la fin du siècle, c'est plutôt en 2050 que ça va commencer fort. Pas commencer, que ça va aboutir fort.
Et ouais, donc, c'est déjà commencé.
Oui, ouais, c'est commencé, c'est ça. Donnez des exemples de ça. Tu parles des réfugiés. Très, très bon exemple. On oublie souvent, là, la guerre en Irak, c'est une guerre du climat. T'sais, c'est une guerre du climat. Pendant des années et des années, les fermiers, il n'y avait plus d'eau. Puis on les aidait à creuser des puits de plus en plus profonds, d'une grande, grande profondeur, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une goutte d'eau qui sorte du sol. Puis là, ils se sont massés aux portes de Damas. Ils étaient 1,7 million de réfugiés. Puis la chicane a pogné entre les sunnites puis les chiites. Puis, mais ça a commencé par une guerre de l'eau. En Égypte, il y a plein de villages où il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, les villages ferment les uns après les autres, les agriculteurs. Puis les agriculteurs sans éducation, en alphabète, qui se massent aussi aux portes des villes. Fait qu'il ne faut pas se surprendre que...
Ceux qui ont faim, qui n'ont pas de travail. Écoute,
faut pas se surprendre que ces gens-là essaient de prendre le chemin de l'Europe et l'Amérique latine essaie de prendre le chemin des États-Unis. Voici ce qui va se passer. Au fur et à mesure où ils vont pénétrer aux États-Unis, ça, c'est déjà commencé, là. Hein, j'invente rien, là. Les colonnes de réfugiés ont commencé, là. Depuis 3, 4, 5 ans. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une autocratie, républicaine, qui va dire, hey, Kirim, ici, on va régler le problème, nous autres. Puis qu'ils vont être extrêmement durs. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont aller vers le Canada. Ils vont monter vers le chemin.
Le chemin Roxham, exactement.
Voilà.
Parce qu'ils
vont dire, on est menacés aux États-Unis. On est exploités. On est menacés. La police va leur courir après. Ils vont monter vers le Canada par dizaines de milliers.
Ça, l'histoire s'est matérialisée sous le leadership de Donald Trump.
Exactement. Ouais. Fait que Donald Trump 2, c'est à nos portes un Donald Trump 2. C'est à nos portes avec les conséquences que ça va avoir sur notre pays. Fruits et légumes. On peut imaginer des bris de chaînes d'approvisionnement dans les prochaines années, 10 ans, là. Dans 10 ans, des bris de chaînes d'approvisionnement.
Mais là, j'entends des gens dire, t'es en train de faire peur au monde.
Ouais, parce que, à un moment donné, quand la maison brûle, tu peux bien dire, oui, ben c'est juste dans la cuisine que ça brûle. Regarde, je vais donner un exemple. S'il y a des taches de rouille dans le bas de ta porte d'auto, tu dis-tu, ça va s'arranger. Ou bien tu dis...
non, t'es mieux de t'en occuper.
Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux bien pas faire peur au monde, mais l'ennui, là, moi, c'est nouveau, ce discours-là dans ma bouche, de dire, attention, c'est là. J'ai tout le temps dit, on a le temps, société résiliente, faut qu'on se donne le temps, mais il faut le faire. Mais là, je suis moins optimiste qu'avant.
Ouais, mais c'est ça, mais c'est difficile d'être optimiste, Paul, parce que honnêtement, c'est quand tu regardes ça, là, de façon macro, tu dis, attends une minute, là, 150 dirigeants qui sont réunis, puis on y arrive pas. Oh, mais là,
je regardais la une du Globe and Mail ce matin. Quand des gens des Nations Unies ou autres observateurs disent en un mot, le Canada parle, mais le Canada fait rien. Ou rien, en tout cas, qui est marquant. C'est-à-dire que c'est un discours répété d'un sommet à l'autre.
Regarde, je vais donner un chiffre pour qu'on le retienne. Extraire une tonne de pétrole en Norvège, c'est 9 kilos de CO2. Extraire un baril. Je voudrais pas me tromper entre le baril, le gallon et la tonne. En tout cas, le rapport est le suivant. C'est 9 en Norvège, c'est 100 au Canada. C'est 10 fois plus de CO2 pour ressortir le pétrole des gaz bitumineux.
Mais là, Justin Trudeau a pris des engagements parce que le Canada est le 5e producteur de pétrole au monde. C'est quand même pas rien, là. Tu peux pas, tu sais, dans le fond, du jour au lendemain, dire c'est terminé, là. On devient carboneux du jour au lendemain. Mais le premier ministre dit, la solution, c'est peut-être l'enfouissement du carbone ou la captation du carbone. Ça, c'est à la mode maintenant, la captation du carbone. On va se mettre à capter le carbone. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si notre salut passe par là, mais c'est pas simple.
C'est aussi difficile que d'empêcher la neige de tomber, là.
Merci à tous les deux. On vous retrouve, évidemment, Nathalie, tantôt et ensemble, demain.
C'est 23.